Deuxième grand moment de ce rendez-vous de midi, en compagnie d'Émile Temim, pour parler à la fois de littérature et de débat d'idées du monde méditerranéen, autour de la figure de Gabriel Odizio et à l'occasion de l'apparition du numéro de la Pensée de Midi, Mythologie méditerranéenne. Émile Temim, historien bien connu à Marseille, puisque c'est un des historiens phares de Marseille, qui a fait l'histoire de Marseille, une histoire de migration. Mais on connaît peut-être un peu moins ces jardins secrets qui sont le travail sur la revue Les Cahiers du Sud, sur le rêve méditerranéen. Et donc, à l'occasion de la parution du numéro de La Pensée de Midi, Mythologie méditerranéenne, Émile Temim nous a donné un très beau texte sur Ulysse, la figure d'Ulysse, mais un Ulysse écrit par un écrivain qui a joué un rôle important à Marseille et qui a fait le lien entre Marseille et Alger, Gabriel Odizio. Émile Temim, bonjour.
Bonjour.
Alors, Gabriel Odizio est une figure littéraire, politique aussi, d'une certaine façon, très impliquée dans tous ces milieux, dans les années 20, dans les années 30, qui a joué vraiment un rôle majeur et pourtant un rôle tout à fait méconnu. Alors j'aimerais d'abord qu'on parle de ce personnage, Gabriel Odizio, et nous, chemin faisant, nous irons jusqu'à ce très beau texte « Ulysse ou l'intelligence », qui a été republié récemment par Gallimard, mais d'abord la figure de Odizio, au fond dans l'histoire culturelle de la Méditerranée, dans l'histoire de la relation entre Alger et Marseille, à travers les Cahiers du Sud et les liens que Odizio a pu avoir avec un certain nombre de grands intellectuels, et en particulier Albert Camus. Émile Temim.
Ce sont des liens très, très compliqués, très complexes, parce que Odizio lui-même est passé de Marseille à Alger, de Alger à Paris, et toute son œuvre se déroule en quelque sorte entre ces trois villes.
Alors c'est quelqu'un qui est né en 1900, je crois. Donc c'est quelqu'un qui est né avec le 20e siècle.
Il est né en 1900, il est né à fond avec toute la période des Cahiers du Sud, précisément, au moment où les Cahiers du Sud vont apparaître, lui, et précisément dans ce milieu-là.
Donc avec Jean Ballard et toute l'équipe.
Avec Jean Ballard, il a fait ses études à Marseille. Hein. Il a déjà aussi entre Marseille et Alger, vivant dans un milieu sur lequel il faut quand même dire deux mots, hein, parce que c'est un milieu d'artistes, c'est un milieu culturel. Son père, il a suivi son père qui a dirigé l'opéra à Marseille et qu'il a dirigé ensuite, qui a dirigé le Grand Théâtre, comme on disait, à Alger. Par conséquent, il a suivi ce milieu culturel, un milieu culturel qui est celui de son père, qui est celui de sa mère, qui est celui de sa grand-mère, qui a italianisé son nom parce que elle était chanteuse d'opéra. Alors, bien sûr, on voit le sens. Et il a été mêlé dès le début à ses aventures littéraires qui se sont déroulés entre Marseille et Alger.
Alors peut-être l'aventure littéraire qu'on bien connue à Marseille, mais qui mérite quand même d'être soulignée. En tout cas, le rôle que Gabriel Odizio a pu avoir dans les Cahiers du Sud, et surtout dans la façon dont, il a inspiré une vision de la Méditerranée beaucoup plus ouverte, alors que, il faut le rappeler, on était en pleine période coloniale.
Oui, il faut représenter cette introduction, cette avancée, en quelque sorte, de Gabriel Odizio dans les années 30. Hein. Dans les années 30, c'est à ce moment-là, il est déjà une figure bien connue à Alger, c'est lui qui s'occupe en particulier de ce qui concerne précisément la culture du côté algérien, et en même temps il a gardé ses relations avec les Cahiers du Sud, avec cette revue qui ne s'est pas vraiment engagée politiquement jusqu'à Odizio. Et à partir d'Odizio, elle va s'engager culturellement, elle va s'engager politiquement.
C'est-à-dire
que Gabriel Odizio prend des positions très nettes, qui sont des positions culturelles, mais qui sont aussi des positions politiques, contre tout ce qui est la latinité, contre ce qui est d'un côté, du côté provençal, par exemple, les idées maurassiennes. Il s'engage contre ces idées maurassiennes et il écrit dans les Cahiers du Sud, justement, ce sont ces textes des Cahiers du Sud qui sont tout à fait intéressants, et aussi, surtout, contre une certaine forme de politique qu'est le fascisme.
Alors effectivement, il y a un livre qui s'appelle Le sel de la mer où Odisio écrit des textes assez vigoureux parce qu'effectivement, à cette époque, on est en plein cœur de l'idéologie fasciste, de cette vision d'une Méditerranée unilatérale, latine, qui a, je dirais, le barès de la colonisation de l'autre côté de la Méditerranée en la figure de Louis Bertrand. Il y a entre Paris et la Provence, la figure de Maurras, et puis une certaine fascination d'un certain nombre d'intellectuels pour le fascisme. Et effectivement, Gabriel Odisio est un de ceux qui va, je dirais, condamner avec une extrême vigueur cette vision, ce péant pro-colonial au nom de la Méditerranée latine.
À la fois, il prend position contre cette vision colonialiste, et pourtant, il est lui-même fonctionnaire français en Algérie. Et en même temps, il prend une position très dure contre, justement, cette notion de la Mare Nostrum fasciste et contre les ambitions, justement, du fascisme en Méditerranée. C'est-à-dire qu'il élargit le thème. Ça n'est pas simplement une position anticolonialiste qu'il prend et qu'il défend et qu'il défendra toute sa vie. C'est une position de renaissance de la Méditerranée. Il écrit un livre.
Alors, justement, ce serait peut-être intéressant d'approfondir cette idée de renaissance de la Méditerranée, parce qu'il y a ce que vous appelez dans les années 30, qui renoue au fond avec ce qui a existé le siècle précédent avec les Saint-Simoniens, ce que vous appelez un rêve méditerranéen. Alors, quel est, dans la vision d'Odisio, les termes, les éléments qui composent ce rêve méditerranéen ?
Alors, disons, pour être bref, qu'il y a d'abord cette idée qui est empruntée aux Saint-Simoniens, qui est la réconciliation de l'Occident et de l'Orient. C'est un moment où ça paraît possible. Et Odisio prend dans cette affaire, dans cette idée de la réconciliation, une position très avancée. La Méditerranée, c'est un ensemble. Et par conséquent, ce qui se produit en Orient et ce qui se produit en Occident, c'est complémentaire. Et ça, c'est très important dans son idée, c'est-à-dire que pour lui, il ne s'agit pas simplement de l'Algérie, où il joue un rôle important, il s'agit du Maghreb, il s'agit du Mashrek. Et son idée, c'est effectivement que cette Méditerranée, le lien, un lien étroit, un lien, comment dirais-je, sentimental, mais pas seulement sentimental, charnel. Charnel chez lui, sans arrêt, la mer, la présence de la Méditerranée, c'est quelque chose qui crée une certaine unité. Et alors, naturellement, ça se traduit d'une autre manière, c'est-à-dire qu'il revient à la fois sur le passé de la Méditerranée, il remonte jusqu'à l'époque homérique, et en même temps, il voit dans cette Méditerranée renaissante, dans cette Méditerranée coloniale de l'entre-deux-guerres, la possibilité, en quelque sorte, de jouer un rôle, de se rapprocher les uns des autres, de ne former, il emploie le terme, mais il faut bien l'employer dans le sens où l'emploi odieux, il emploie le terme de race. Mais attention, c'est le contraire du racisme qui est en train de surgir.
Oui, au fond, ce qu'il cherche, c'est une forme de synthèse méditerranéenne, de dimension syncrétique que l'on voit d'ailleurs complètement on en voit la trace dans plusieurs numéros des Cahiers du Sud.
Et en particulier, il y a eu toute une discussion là-dessus, sur cette idée justement d'une synthèse méditerranéenne, et il voulait introduire dans les Cahiers du Sud cette idée de la synthèse méditerranéenne. Et alors ça s'est passé au moment de juste avant la guerre, au moment de l'occupation, et après, c'était très difficile de l'introduire effectivement, mais il était très sûr d'avoir raison de ce côté-là.
Oui, il y a un côté visionnaire dans la figure d'Odisio. Aujourd'hui, quand on parle de Gabriel Odisio, plus personne, ou à peu près, ne sait qui c'est. Or, d'une certaine façon, vous écrivez que c'est le père, Odisio, que c'est le père de ce nouveau rêve méditerranéen, de cette vision à l'époque extrêmement ouverte, et que notamment, il a joué un rôle très important dans les idées et dans la façon dont un certain Albert Camus va écrire son œuvre.
Oui,
Alors parlons un peu de ces relations Odisio-Camus à partir d'Alger et autour de cette librairie et de cet éditeur Edmond Charlot et cette librairie qui s'appelait Les Vraies Richesses.
Oui, il y a 15 ans d'écart en gros entre Charlot, Camus d'un côté et Odisio qui est le prédécesseur. C'est pour ça que eux-mêmes reconnaissent en Odisio le père. celui qui a en quelque sorte lancé les idées de rapprochement entre les populations, ce qui impliquait évidemment une transformation complète du système colonial. Et aussi une idéologie nouvelle, en quelque sorte, basée sur la Méditerranée, mais l'Algérie était en particulier un lieu exemplaire pour lui de rapprochement entre les populations. Ça paraît curieux aujourd'hui.
Oui, parce que en même temps, dans les années 30, on est au moment de la célébration de l'expédition coloniale, et donc il y a ce grand mouvement qui va être aussi un basculant. C'est le moment où les éléments du nationalisme algérien commencent à prendre forme, donc on est à la fois d'une période charnière, et on se demande si aujourd'hui, alors bon, on a le recul de l'histoire, si ce discours méditerranéen n'était pas là un peu pour faire illusion, si c'était pas une belle incantation s'opposait au discours colonial frontal et aux volontés de l'appropriation de l'Algérie au nom de la latinité.
Oui, il y a incontestablement les deux qui vivent ensemble. Et pour Odizio, l'essentiel, c'était d'arriver justement à un rapprochement des populations, et en particulier un rapprochement qui passait à travers la culture méditerranéenne, à travers la forme de culture de j'allais dire le choc des cultures.
C'est un des premiers à avoir parlé de cette notion de culture méditerranéenne.
Mais non seulement à en avoir parlé, mais à essayer de la mettre en scène. La mettre en scène, c'est un homme de culture, c'est un homme de théâtre. Odizio, et par conséquent, il essaye. Il y a la Clémence du Pacha, qui a été une de ses œuvres, aujourd'hui fort méconnue, d'ailleurs, peut-être à juste raison, c'est parce qu'il a fait mieux. Mais c'était un monde, justement, où mettre en scène des acteurs de culture musulmane et des acteurs de culture européenne, chrétienne, c'était une façon de les rapprocher. Le théâtre, la scène même, était un lieu où ils pouvaient se rencontrer, parler ensemble, parler jusqu'à un certain point la même langue, qui était une langue de culture.
Il y a donc chez Odizio, un acte de reconnaissance symbolique et culturelle, notamment dans la relation avec la culture arabe, ce qui est tout à fait nouveau dans les années 30. Et on va en voir la trace dans un certain nombre de numéros des Cahiers du Sud.
Oui, mais pour Odizio, ça remonte plus loin. Hein. Avant même de venir s'installer en Algérie, il s'était intéressé à la culture arabe, à arabo-musulmane, comme on dit aujourd'hui. J'aime pas beaucoup ce terme. Mais c'est vrai qu'il était, sa curiosité le poussait à essayer de retrouver en Méditerranée ce type de culture fort intéressante et à mettre en scène en quelque sorte. Je dis mise en scène parce que c'est effectivement des choses qu'il rapproche de Camus justement, c'est ce goût du théâtre.
Alors quels sont les liens justement entre Odizio et Camus? Ils se sont bien connus à Alger?
Ils sont très bien connus à Alger. Il est, quand on parlait de père tout à l'heure, il est le père de cette école d'Alger, de ce groupe, si vous voulez, qui est à la fois le groupe de Camus, de Robles. Il faut rappeler de temps en temps d'autres que Camus, quelle que soit la sympathie qu'on éprouve pour Camus, mais aussi un des hommes qui a suivi et encouragé toute cette littérature de langue française, mais de souche kabyle ou arabe, qui s'est formé autour de l'école d'Alger. Hein, je pense à Mouloud Feraoun, je pense à Dib, qui a survécu, lui, à cette période pendant assez longtemps.
Il y a celui qui se définissait comme un Janus Bifron.
Qui est Jean Amrouche, c'est-à-dire un homme qui, justement, fait partie de cette double culture, qui est un kabyle chrétien, qui fréquente aussi bien le milieu culturel dont nous avons parlé, le milieu des hommes d'Alger, de l'école d'Alger, que ce monde particulier qui est le monde
des lettres parisiennes, on peut dire ça,
voilà,
comme ça.
C'est ça. Et finira, d'ailleurs, tout ce monde-là finira à Paris. Hein.
Mais comment dire, c'est là avec, on va pas anticiper la guerre d'Algérie, en tout cas les événements de Sétif en 45 qui sont dramatiques, et puis petit à petit, cette tentative de synthèse va être confrontée à la réalité des déchirures de plus en plus violentes du politique, je dirais jusqu'à l'absurde, mais ça c'est au fond des moments que Gabriel Odizio, pour revenir à lui, n'a pas vraiment connu.
Si.
Ah.
Si. Ce sont des moments.
Vous avez travaillé sur le fond de Odizio.
J'ai travaillé sur le fond Odizio. Odizio.
Il disparaît à quelle date, Odizio?
Oh, beaucoup plus tard, dans les années 70.
D'accord.
Mais il est engagé, il est à Alger même, et il est chargé justement de la culture par le gouvernement français au moment de la défaite des années 40. Alors, c'est vrai qu'il a connu cette période-là, qu'il a été obligé de quitter Alger parce qu'il pensait mal. Et que par conséquent, on l'a renvoyé en France, d'où il était quand même engagé auprès d'Alger et faisait de l'aller-retour pendant un certain temps. Et il est revenu à Alger plus tard, à un moment où Jean Amrouche devient un des directeurs de la culture à Alger, au moment de la libération de cette transformation qui suit le débarquement des Alliés en Afrique du Nord. Bon, on retrouve. Et à ce moment-là, Odizio est encore en France. Il reviendra. Il est même en prison à un moment à Fresnes. Il s'en souviendra. Et il reviendra ensuite à Alger pour y prendre vraiment sa place et toute sa place. Et à ce moment-là, il a connu les événements de Sétif. Mais il n'en parle pas parce qu'il est un fonctionnaire français, il est un fonctionnaire colonial. C'est tout le problème, justement, d'un homme. Il y a des déchirements dans tout ce monde-là. Hein. Camus est déchiré.
Ce que l'on peut dire de ce qu'on ne peut pas dire.
Ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire.
Ce serait peut-être intéressant, d'ailleurs, de vous rappeliez en quelques mots ce qui s'est passé à Sétif, parce que tout le monde ne le sait pas. C'est-à-dire qu'au moment où on célèbre la libération...
Le jour de la libération.
Donc le 8 mai 45.
Le 8 mai 45 se produit à Sétif. Quelques événements un peu violents qui se traduisent et qui se transforment par une répression absolument abominable qui va tuer des milliers et des milliers de gens et sur laquelle, en fond, la France a fait silence. Mais ceux qui étaient intéressés par l'Algérie, ceux qui étaient en Algérie, ont été profondément marqués par ça. Je vous parlais de Jean Amrouche, je vous parlais d'Albert Camus, l'un et l'autre ont écrit sur cette affaire.
Et puis celui qui a été profondément marqué comme écrivain, c'est Kateb Yassine.
Kateb Yassine, oui, il avait 16 ans.
C'est le moment de basculement, parce qu'on voit la violence. Et de ce point de vue-là, je crois que ce qui est intéressant, c'est, puisqu'on parlait de mythologie méditerranéenne et de ses rapports, c'est la littérature qui est sans arrêt en phase, imbriquée avec les événements politiques.
Absolument. C'est vrai pour Amrouche. Le texte d'Amrouche est un texte magnifique. Et pour lui, Sétif a été le moment de rupture. Mmh. Que suis-je, dit-il. Il dit, je suis un monstre. Je suis un monstre parce que je suis kabyle et je suis français, de culture française. C'est-à-dire qu'il sentait la rupture. Pour moi, Sétif, du point de vue justement de la rupture culturelle, est peut-être plus important que le soulèvement de 54. Il l'annonce, en quelque sorte.
Et ça, Odizio, il y a pas de, n'en parle assez, en parle assez peu, au moins publiquement.
Il n'en parle pas publiquement. Il en parle ensuite en disant oui, Sétif, ça a été le moment difficile. Ils reconnaissent tous. Je ne parle pas naturellement des articles de combat d'Albert Camus, qui a été le seul à dénoncer à ce moment-là la rupture, tout en essayant bien sûr de garder ses idées anciennes, de défendre en quelque sorte la multiculture algérienne.
Alors, on voit qu'effectivement, ce rapport à tout ce qui s'est passé en Algérie dans les années 30, les années 40, les années 50, a quelque chose à nous dire par rapport à aujourd'hui. Mais j'aimerais, pour terminer, Émile Temim, qu'on revienne au mythe, au fond, qu'on revienne au texte de Gabriel Odizio. Et je vais, au fond, vous donner à entendre, partager cette ouverture de ce livre magnifique qui s'appelle Ulysse ou l'intelligence, et qui est donc été republié par Gallimard. À travers le monde, on ne poursuit jamais que sa propre image, dans tous les êtres et jusque chez Dieu. Nous comprendrons peut-être le mystérieux univers que le jour où nous aurons percé le mystère qu'à nous-mêmes nous opposons. Le thème d'Ulysse orchestre ma vie. C'est un alcool dont je me saoulerai, même s'il doit paraître sans degré à tout autre que moi, même s'il faut me résoudre à l'ivresse solitaire. La figure, l'être, le mythe d'Ulysse n'ont jamais cessé de me hanter, m'habitent de plus en plus, s'emparent de mon intérieur, me dépossèdent en me possédant, me rendent à ma vérité après m'avoir arraché à mes apparences. Sans eux, quel fantôme, sans os serais-je ? Privé de ce songe, quelle serait ma réalité ? Ça, c'est magnifique. Privé de ce songe, quelle serait ma réalité? On a peut-être tout le sens de l'œuvre de Gabriel Odizio.
De l'œuvre depuis le début. Hein, de l'œuvre depuis le début. C'est-à-dire, dans Jeunesse de la Méditerranée, il faisait en quelque sorte de cette Méditerranée, à travers les âges et à travers la pensée, à travers la légende, en quelque sorte. Car la Méditerranée couvre justement ce monde de la légende, ce monde du mythe. Et alors, il faut remonter très loin. Et c'est pas un hasard s'il reprend ce thème d'Ulysse. Parce que pour lui, Ulysse, c'est lui. C'est-à-dire que ce
monde... c'est Ulysse toujours recommencé.
C'est Ulysse toujours recommencé. C'est Ulysse, l'homme. Je crois que c'est très intéressant. Ce que j'ai voulu montrer, moi, dans l'article, le petit article que j'ai fait...
Dans ce numéro de La Pensée de Midi, Mythologie méditerranéenne.
Oui, c'est cette idée de l'homme opposé au demi-dieu, opposé au dieu. Au fond, Odizio n'est pas très déiste, il n'est pas, en tout cas, très chrétien, si j'ose dire, pas plus qu'il n'est vraiment musulman.
Oui, c'est la culture antique qui revient au nom d'une sorte de nouvel humanisme méditerranéen.
D'un nouvel humanisme méditerranéen et qu'incarne Ulysse, parce que le titre, c'est Ulysse ou de l'intelligence, c'est-à-dire que Ulysse n'est pas le héros, il n'est pas Héraclès. Je poserai volontiers Ulysse à Héraclès dans la pensée d'Odizio. Héraclès, c'est le héros solide, costaud, qui tue les monstres et qui est en réalité un demi-dieu. Hein,
alors qu'Ulysse n'est qu'un homme.
Ulysse est un homme.
Un homme avec toute son ambivalence, mais en même temps toute sa ruse, son intelligence,
grandeur.
Les spécialistes du monde grec appellent la métisse, cette ruse, cette capacité d'inventer.
Exactement.
Alors, Émile Témim, pour terminer, s'il y avait une bonne raison, au moins une, de lire et de relire Odizio, ce serait laquelle?
Ça serait de retrouver justement cette espérance dans un monde méditerranéen que Ulysse, cet homme qui est moitié navigateur, mais, comme il le dit, pas trop navigateur, moitié terrien, jamais héros, mais toujours homme, c'est la Méditerranée. C'est l'humanisme méditerranéen qu'on retrouve à travers lui.
Donc le rêve méditerranéen toujours recommencé.
Toujours recommencé et qui se retrouve à travers cette figure justement de voyageur du monde, un monde méditerranéen que l'on va parcourir, traverser, avec, si vous voulez, la pensée des dieux, mais au fond, les dieux, qu'est-ce qu'ils sont dans le monde méditerranéen? Ce qui compte, c'est les hommes. Ce qui compte, c'est l'intelligence. Ce qui compte, c'est Ulysse, c'est-à-dire un homme qui a la prudence, qui est la ruse, qui est la force aussi, et qui parcourt cette Méditerranée et ses dangers. La Méditerranée, c'est un monde plein de dangers. La mer, c'est un monde plein de dangers. Il faut le parcourir, il faut gagner, en quelque sorte, au-delà, en parcourant ce monde méditerranéen. Il faut gagner la vie que représente la Méditerranée.
Si vous voulez aller un petit peu plus loin, donc vous pouvez lire ce texte Ulysse ou l'homme mythifié d'Émile Témim dans ce numéro de La Pensée de Midi, Petite et Grande Mythologie Méditerranéenne, coordonnée par Catherine Payon, avec là aussi de très beaux articles de Catherine Payon, de Takis Theodoropoulos, de Bruno Etienne sur Carmen Colomba, de Predrag Matveïevitch, de Jean-Louis Fiabelny, et pour terminer avec Michel Guérin sur Qu'est-ce qu'un mythe. Merci Émile Témim. Oui. Et je crois qu'à partir de cette figure de Gabriel Odizio, on peut entrer dans une mythologie méditerranéenne qui a toujours beaucoup de sens et de sel aujourd'hui.
Merci.